Ce que je propose, c'est d'ouvrir une ultime discussion au fond sur les pistes principales qu'on peut essayer de se donner dans les prochaines années si on reste sur cette problématique. Moi, je voyais, de mon point de vue, hein, qui est très partiel, particulier, au moins quatre fils à mettre en circulation et à travailler. D'une part, donc, être attentif aux modalités de la critique, évidemment, c'est essentiel et ça permet de dépasser précisément l'opposition qui est devenue un peu convenue, me semble-t-il, entre sociologie critique et sociologie de la critique. Je pense qu'il va peut-être falloir sortir de ça. Au bout d'un moment, c'est bon, on fait un 128 pages là-dessus, puis on tourne la page. Enfin, la 129e, on fait un peu autre chose, quoi. Et précisément parce qu'on sait que les objets produits par la sociologie peuvent changer de modalité, passer dans l'espace public, changer de sens, et que précisément se heurtent ou rencontrent d'autres programmes conceptuels, d'autres notions. Et c'est précisément le cas, me semble-t-il, quand les environnementalistes ou des gens qui défendent des théories fortes sur la question écologique surgissent dans nos champs. Je pense par exemple à quelqu'un qui discute beaucoup, que vous connaissez tous, puisqu'il a commis, il y a maintenant un an, je crois, avec White, un ouvrage qui s'appelle « Pour une démocratie écologique ». C'est Dominique Bourg. Dominique Bourg, qui est philosophe et social scientist, c'est-à-dire philosophe qui travaille beaucoup avec les sciences sociales. Évidemment, avec Dominique, quand on discute, on ne sait jamais très bien si on est sur un plan axiologique et il faut sauver la planète et il y a urgence et il faut arrêter de déconner, en gros, ça pour aller vite. Ou est-ce qu'on est dans un plan intermédiaire où on négocie, au fond, ce qui reste des concepts analytiques ou descriptifs fondamentaux pour poser ensuite un regard plus normatif ou favoriser l'action. Et c'est vrai que je pense que le rôle de ce genre de réflexion, comme celle qui a été développée ces derniers temps, est de réintroduire un espace intermédiaire, mettre à distance sans rejeter. Et donc je pense que c'est fondamental, précisément, de travailler la critique sous cet angle-là. Donc moi, j'avais proposé à plusieurs reprises dans les discussions de bien être attentif à de quelle critique on parle, en la remettant dans ses processus, dans ses contextes d'énonciation. Je pense qu'il y a, quand on parle de sociologie critique, il y a tout un tas de nuances qui sont à mettre à l'œuvre. C'est vrai que, par exemple, pour en discuter souvent avec Daniel Cefai, par exemple, Daniel Cefai, qui, comme vous le savez, est un grand spécialiste de la sociologie américaine, notamment interactionniste, école de Chicago, là, qui actuellement est en train de faire un gros travail de retour aux sources sur les origines du pragmatisme, pour essayer un peu de clarifier. Les revendications de pragmatisme à la française sont en fait très particulières, comme toujours. Bien sûr, ben, il faut bien qu'on ait quelque chose de différent, parce que sinon, on n'a plus rien à vendre. Si on ne fait que retraiter Dewey 50 ans après, effectivement,
c'est vrai.
Non. Donc, il y a plusieurs formes de pragmatisme, ça je pourrais y revenir dessus s'il y a des questions, c'est pas l'objet ici. Mais avec Daniel, c'est vrai, quand on voit son œuvre, par exemple, majeure des dernières années, qui est « Pourquoi se mobilise-t-on ? » Question importante, quand même, qui pourrait être finalement sous question, ça aurait pu être une question d'axe, d'une certaine manière. En réalité, il répond pas vraiment à la question, parce qu'il dit pour y répondre, il faut remonter et refaire ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire l'archéologie des idées sociologiques. Donc il part de Parc, de l'écologie des espaces publics, enfin de tout ce que vous connaissez, jusqu'aux nouvelles sociologies. C'est vrai que quand on le regarde, il a un regard extrêmement critique, en fait, sous-jacent ou qui passe à certains moments sur ces dispositifs d'action à distance qui sont supposés être les débats publics, les nouvelles normes environnementales, etc., et qui décontextualisent et font perdre le sens que les acteurs donnent en situation à leurs activités. Et donc on voit bien que là, c'est bien une sociologie critique, mais une sociologie critique qui passe par une certaine modalité qui consiste à défendre le point de vue ethnographique sur l'acteur comme priorité pour les sciences sociales si elles veulent résister précisément à ces espaces de mesure et de calcul, et donc à la définition de leur concept. Vous allez travailler sur, on a vu à plusieurs reprises aujourd'hui, enfin en tout cas moi je l'ai vu, cette espèce d'imposition de problématique, et ça va jusqu'à la critique radicale, la sociologie de combat. Moi je pense souvent à Anita Bomoni, qui est une collègue sur le champ nucléaire, que je fréquente de fait travaillant sur le nucléaire, on n'est pas si nombreux en France. et qui évidemment est en même temps présidente d'une association de défense des victimes de l'amiante, va mener le combat sur la manière dont on exploite les réseaux de sous-traitants dans l'industrie nucléaire, etc., etc. Et donc là, elle est très engagée avec des valeurs à défendre, etc. Donc on a toute la gamme. Je pense que c'est important justement de faire cet exercice, de le poser sur la table et d'y revenir. Ensuite, il y a évidemment la capacité des acteurs à mettre en critique eux-mêmes toutes ces notions. Donc on l'a vu à plusieurs reprises, je n'y reviens pas. Le répertoire d'action et de protestation des mouvements, des ONG, était extrêmement vaste aujourd'hui. On le voit, par exemple, il n'y a pas plus tard qu'hier, le réseau Semences Paysannes, enfin tout un nouveau réseau qui se construit après la loi, vous savez, qui introduit une sorte de copyright sur les semences agricoles, a pris d'assaut un colloque où il y avait notre cher collègue Pierre-Benoît Joly qui était là pour présenter au fond une sociologie des technologies en controverse. Et donc on le voit en fond, j'ai reçu une photo parce que j'ai des agents à plusieurs endroits, moi. Et donc ils sont arrivés, ils n'ont pas enfariné les communicants, mais donc vous voyez, il y a toujours des ressorts et les acteurs viennent et évidemment on fait un texte pour expliquer qu'ils continueront à échanger leurs semences et que évidemment c'est comme la bagarre du logiciel libre dans un certain contexte ou à la limite Adopi. Donc on trouve des choses qui sont assez générales, donc la critique est à l'œuvre chez nos acteurs. Donc ils ne nous ont pas attendu pour critiquer, évidemment, toutes ces affaires-là. Donc ça, c'est le premier point que je retiens, c'est qu'on a, en rassemblant des gens très différents qui ont des terrains ou des approches assez variées, on peut construire un répertoire, et je pense que c'est un peu ton objectif pour la suite du colloque, des ressorts critiques autour de ces grandes catégories. Alors effectivement, catégorie de l'action et de la gouvernance, et donc il y a le développement durable, mais effectivement il y a tout un réseau sémantique qui part avec, hein. On l'a vu avec participation ce matin, on le voit avec plein d'autres choses. Moi je sais que j'ai un collègue demain qui vient à mon séminaire, qui est un collègue italien qui essaye de développer une approche convergente entre Gramsci et Foucault, donc c'est assez original, et qui justement voit dans tous ces dispositifs en fait une nouvelle ruse du néolibéralisme pour à travers les technosciences empêcher la critique. Donc littéralement, lui couper l'herbe sous les pieds, la marginaliser, c'est-à-dire qu'effectivement, la rendre totalement incapable d'argumenter. Vous voyez, tout ça se passe sur des fronts extrêmement différents. Mais prenez par exemple la campagne électorale présidentielle. Aujourd'hui, si vous ne chiffrez pas votre programme, vous êtes quasiment discrédité. En fait, ça ne va pas de soi du tout. Enfin, remonter un peu dans le temps, c'est quoi cette idée de chiffrer les programmes ?
C'est même extrêmement nouveau.
C'est non seulement nouveau, mais en plus, c'est très en amont. C'est-à-dire qu'il faut très rapidement donner des chiffres. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on voit bien que les contraintes pèsent sur toutes sortes d'acteurs qui n'ont pas forcément le moyen de s'en affranchir. Et donc, on voit bien qu'il y a une génération comme ça de contraintes qui vont devenir des lieux communs. C'est-à-dire que vous devez devoir chiffrer votre recherche avant même d'avoir commencé à poser le projet. On chiffre énormément de choses. Donc, effectivement, les ressorts et les appuis de la critique, ça va être ça. Sur quoi les acteurs vont faire porter l'attention? Et je pense que l'économicisation ou la quantification ou l'évaluation, qui sont toutes des formes extrêmement... présente qui prolifère et qui percole sur énormément d'objets, doit faire l'objet d'une attention particulière, et ça ressort aussi énormément des discussions, hein, cette idée. Donc moi j'appelle espace de calcul, on n'a jamais eu, su exactement d'où venait l'expression espace de calcul, enfin moi je l'utilise depuis une quinzaine d'années, c'est cette idée qu'à un moment donné un espace de calcul normé s'impose aux acteurs, et ils ne sont pas audibles, ou leur parole publique ou leur action en fait n'est pas prise en compte dès lors qu'elle n'est pas calculable dans cet espace. C'est une autre façon de parler finalement de jeu, de stratégie, de rationalité. Et donc toute la question, c'est comment ces espaces de calcul peuvent être défaits, être contestés, etc. Donc je vois trois stratégies qui émergent et qui rendent visibles des positions un peu différentes. Soit on change le mode de calcul, mais on garde l'idée qu'il faut rendre les choses calculables, donc on reste dans un esprit computationnel. Il faut chiffrer, il faut avoir des modèles, être capable de donner, d'évaluer des performances, d'avoir des tableaux économiques, même si on sait qu'on les reverra, avoir des scénarios plausibles, etc. Moi, je vois par exemple Benjamin Dessus sur l'énergie et le nucléaire est devenu un expert, enfin un contre-expert, ultra-expert sur maniement de chiffres, de données énergétiques, etc. Soit on crée une symétrie, et ça c'est là où la forme de la critique change, entre le calcul et d'autres formes d'appui, par exemple l'expérience, le vécu, Mais vous voyez le boulot qu'il faut faire dans certains contextes. Par exemple, dans le cadre de la sociologie, ça se traduit par rééquilibrer quantitatif et qualitatif. On en est arrivé à cette dramatisation un peu absurde, c'est-à-dire qu'il faut donner des bonnes raisons pour faire des enquêtes qualitatives. Si vous voulez avoir une ANR chiffrée, vous voyez le truc de l'espace de calcul, au même niveau que vos collègues qui vont vous proposer une enquête quantitative, il va falloir beaucoup plus argumenter. Donc ça veut dire quand même que la resymétrisation est elle-même une opération critique importante, et on l'a à tous les niveaux quand il s'agit de rendre compte des expériences des acteurs dans leurs activités, pas forcément justement d'évaluer leur performance ou d'évaluer la cohérence de leurs actions par rapport à un schéma, par exemple, de comportement ou d'attitude vis-à-vis de l'environnement. On a eu cette discussion ce matin sur les obstacles individuels ou collectifs. Et la troisième stratégie, c'est évidemment sanctuariser des mondes. Et le risque, on l'a vu avec Barcelone, etc., mais on le voit partout. C'est-à-dire cette idée d'avoir des lieux qui sont donc des inversions, ou en tout cas des diversions, ou des bon alors, pas des utopies forcément, puisque justement ils sont bien quelque part, mais qui arrivent à renverser le monde. Et donc c'est le problème de la sanctuarisation, c'est-à-dire comment ces formes de vie qui vont rompre avec le calcul tel qu'en tout cas il s'étend de manière assez générale, puisque ça va avec le processus de globalisation et de mise en équivalence de beaucoup de choses. C'est pas chercher la symétrie, c'est-à-dire à exister à côté d'autres dans une forme de zoo humain où on aurait comme ça, comme dans les débats publics, vous savez, la parole doit être absolument distribuée entre tous les acteurs. Mais il s'agit littéralement de sanctuariser des trucs, donc de faire de la sociodiversité d'une certaine manière, c'est-à-dire à avoir au fond une vraie exigence de différence. Et on sait qu'on est quand même aussi dans des sociétés où la critique passe par la revendication de différence, qui est en tension avec la revendication d'égalité. C'est un vieux... Bon, ça a occupé beaucoup les philosophes moraux, les éthiciens, etc. Il y a énormément de textes là-dessus. Je passe rapidement. Voilà. Et le dernier point, mais je parle beaucoup là, donc, et pourtant assez vite, c'est la question du futur. Moi, c'est quelque chose qui me travaille particulièrement. Donc là, je fais de la pub, parce que de temps en temps, c'est fait pour ça, d'avoir le micro. Je viens de mettre en ligne un texte qui devrait paraître dans le bouquin collectif sorti du colloque de Cerisy, qui a eu lieu en septembre, qui s'appelait « Retour sur la société du risque ». Et le texte s'appelle « Des prises sur le futur, regard analytique sur l'activité visionnaire ». Et j'essaye de proposer un cadre analytique pour comprendre, prendre au sérieux ce que c'est qu'une annonce du futur. C'est-à-dire arrêter de s'angoisser en disant... ça peut être qu'une fabrication irrationnelle ou symbolique, totalement imaginaire, etc. Arrêter d'appliquer mécaniquement la self-fulfilling prophecy, qui est un modèle qui doit être mis dans son histoire intellectuelle, et surtout bien respécifié comme mécanisme particulier de réalisation de ce qui est en train de s'énoncer et qui suppose des conditions sociales particulières. Et donc j'étudie la promesse, l'anticipation, la prospective, la prévision, toutes ces formes qui sont pour moi des régimes d'annonce du futur. Et je pense que dans les approches critiques du développement durable, un des points d'entrée, et là il y a un programme de travail collectif pour des années, c'est de regarder comment s'entrechoquent ou s'articulent des visions du futur, comment les temporalités sont harmonisées avec ou sans chef d'orchestre. Quand il y a évidemment un grand organisme international, il a tendance à définir l'agenda et à fixer, par exemple, 2050. Quoi, 2050, vous avez comme ça, alors pour la population mondiale, pour le climat, vous avez comme ça des dates qui deviennent des dates. Vous avez Rio plus 20, pourquoi pas Rio plus 30, enfin, évidemment, bon, vous avez comme ça des fixations de temporalité et parfois des événements. Par exemple, Fukushima, 40 ans pour vraiment démanteler. Donc ce sont les objets là qui décident du temps qu'il faudra pour commencer à vraiment aller voir ce qui se passe dessous, notamment. Etc., etc. Donc vous voyez que les temporalités et les visions du futur, c'est toute une affaire. Et je pense qu'on ne peut pas traiter sérieusement et construire un regard sur les appuis critiques et les évolutions de ces concepts autour du durable et de la durabilité, ou même du soutenable, de ce qui peut être soutenable ou insoutenable, sans regarder les types d'ouverture d'avenir, pour employer une expression que j'avais piquée à un philosophe qui est un peu disparu, Raymond Duval, qui était un disciple de Lévinas, qui avait fait un très beau livre sur les modalités temporelles, qui s'appelle « Temps et vigilance », qui est passé totalement inaperçu. Je suis tombé dessus un peu par hasard. Et c'est vrai qu'il avait ce beau concept de très difficile d'agir et de penser sans ouverture d'avenir. Et donc, tout le problème, c'est quel est l'angle d'ouverture que vous avez. Évidemment, l'angle peut être trop ouvert, le futur devient totalement indéterminé, ou il peut être trop fermé. Vous avez votre feuille de route, hein, et vous ne voyez pas ce qui se passe à côté. Donc vous avez un problème d'erreur de calcul sur le futur, de computation. Et vous savez, c'est quelque chose qui obsède particulièrement Jean-Pierre Dupuis. On en a déjà parlé. Cette idée de lui défend une idée de la détermination du futur, c'est-à-dire le futur nous regarde, avec un jeu de mots d'ailleurs marrant sur justement la responsabilité que nous avons face au futur, puisqu'il nous regarde. Il nous concerne et en même temps il nous voit, c'est-à-dire que les actions d'aujourd'hui sont évidemment enregistrées dans un futur selon Dupuis. Ça, je vous invite à lire tout ça. Voilà. Donc moi j'ai fait un peu voilà une ouverture de grandes pistes problématiques. J'en rajouterai une là aussi un peu prodomo, mais c'est à prendre ou à laisser. Vous faites ce que vous voulez. Je pense que vu l'état de nos disciplines et les risques associés dans les prochaines années, soit de fragmentation, soit de compétition généralisée pour décrocher des misérables bourses, etc., il faut mutualiser. Il faut apprendre à mettre en commun des objets. Pas tout, bien sûr. Il faut garder toujours des choses pour soi. Il ne faut pas tout mettre dans un même monde. Et je pense que le numérique est quand même un espace qui doit être aujourd'hui beaucoup plus, encore plus investi par les sciences sociales et humaines qu'il ne l'est. C'est pas un ennemi. Je pense particulièrement à ce qu'a fait Marin Dacos avec tous ses outils sur sa plateforme du Cléo. Vous savez, bon, revue.org, hypothèse.org, etc. Moi-même, j'ai ouvert deux carnets de recherche sur nos travaux en cours. Au début, on n'y croyait pas trop. Et puis finalement, c'est un moyen de mettre en partage un travail en train de se faire, de créer des liens entre des trucs. Donc là, il y a moyen d'investir le numérique. Et je pense que créer des fils de discussion d'une part, des partages de dossiers, de documents, de travaux, d'archives, c'est quelque chose qu'il faut penser sérieusement parce que justement, ça évite de réinventer constamment les problèmes et ça permet de mettre en circulation pas simplement les textes ou les contributions des uns ou des autres, mais aussi les data, les appuis, par exemple, ne serait-ce que tous ces rapports qui nous parlent de développement durable. Si on peut avoir un corpus dans lequel on puisse faire des croisements, ça permet de voir, par exemple, l'évolution de la critique, des définitions, etc. Et donc là-dessus, ben, vous, en fouillant, vous trouverez plein d'idées, de pistes. Je vous laisse. Voilà.
Merci, mais peut-être que tu peux.
Je t'en prie.
Ça marche ? Oui. Bon, je vais pas être très long. Simplement quelques mots rapidement. Disons sur la question. Ce que tu viens d'évoquer sur le web, etc., me fait penser que un des premiers sites absolument fascinants qui a été créé a été aux États-Unis le site de la Pragmatic Cyber. Les premiers à avoir mis en ligne donc l'ensemble de la littérature pragmatiste sont effectivement donc des pragmatistes américains et on peut trouver sur le web tout William James, tout Dewey, etc. C'est une ressource, disons, vraiment étonnante et tout à fait remarquable, tout à fait directement dans la logique de ce qu'est effectivement le pragmatisme, c'est-à-dire la volonté de communication, d'échange, de présentation, absolument sans limite, aussi peu sans limite que possible, disons entièrement ouverte, etc. Et si vous avez l'occasion, c'est très facile à trouver. Si vous voulez lire les articles de Mead qui sont sortis, etc., tout y est. C'est absolument fascinant. La remarque que je voudrais faire, bon, pour et là, en écoutant Francis tout de suite, ça me venait à l'esprit. Je me disais que au fond, la sociologie critique du développement durable, quelque part, elle se trouve autour de l'environnement. Ce qui est dommage, d'une certaine façon, par rapport à la notion d'environnement, alors tu évoquais le travail de Cefaille, bon, j'ai quand même travaillé un peu sur la genèse de la notion, etc. Ce qui est extrêmement, bon, genèse en France, en Europe, disons en Angleterre, aux États-Unis, ce qui est très dommage, à mon sens, c'est que l'épistémologie de l'environnement, moi j'ai essayé de travailler, bon, j'ai un peu contribué, mais elle n'est pas encore faite, elle demanderait à être développée, et l'environnement, à mon avis, est la meilleure critique qu'on puisse faire du développement durable. Le développement durable a intégré, disons, a associé les notions d'économie, de social et d'environnement, enfin, a essayé de le faire, pour des raisons qui sont, sur lesquelles on pourrait revenir. ils ont quand même des raisons d'opportunité historique, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, enfin, je l'ai évoqué un petit peu, il est, dans les années, 80, une chose apparaît quand même problématique, c'est qu'il n'est pas possible pour les pays développés d'imposer aux pays en voie de développement leurs critères environnementaux. Parce que ça signifie pour eux, à ce moment-là, l'arrêt ou l'abandon du développement, d'une certaine manière. Et donc, c'est de la conciliation entre des exigences de développement qu'il était important de maintenir pour les pays en voie de développement et en même temps le maintien, disons, de la problématique environnementale qui est liée le développement durable. Ensuite, le développement durable s'est élargi, évidemment, il a été repris, réapproprié par l'ensemble, disons, des groupes et des acteurs, d'abord plutôt les acteurs, les ONG, etc., puis progressivement les organisations, enfin les structures institutionnelles, disons, et aussi il a fait l'objet de travaux théoriques absolument énormes, considérables, pour lui donner des sens divers et variés. Mais, d'une certaine façon, je pense que cette origine, disons, du développement durable, il faut malgré tout l'avoir présente à l'esprit, et le fait que l'association entre environnement, économie et société a été faite de façon à ne pas pénaliser, en quelque sorte, les pays en voie de développement. Mais elle s'est faite, donc, d'une certaine façon, elle était surdéterminée, en quelque sorte, par un objectif qui est un objectif à la fois, disons, politique, social, éventuellement moral. Mais cette surdétermination, quelque part, a affaibli, d'une certaine manière, la notion. Elle a affaibli à la fois la notion d'environnement et elle a affaibli, disons, aussi les perspectives, disons, économiques et sociales. Mais elle a surtout empêché à ce que la notion d'environnement accède probablement à la signification, à la portée, au rôle qui aurait pu être le sien, disons. L'environnement est porteur, d'un ensemble, disons, de perspectives, de possibilités qui sont absolument considérables. Et il est fondamentalement porteur d'une dimension critique. Ce que l'environnement dit est de complètement nouveau par rapport à ce qu'a été, disons, la doxa, le discours de l'Occident depuis, disons, les Lumières, c'est d'une certaine façon la question de la non-connaissance, la question de l'ignorance, la question de l'indétermination. Et donc, de ce point de vue-là, il est en lui-même une critique majeure de ce qui a été donc la perspective occidentale. Et ce qui est très intéressant, c'est que à la genèse de l'environnement, ce qu'on trouve très 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 facilement, hein, je veux dire, c'est l'agnosticisme de Locke. Pour Locke, dans la philosophie de Locke, qui est, à mon avis, probablement le premier, un pré-penseur en quelque sorte de l'environnement, toute la philosophie lockienne repose sur une vision première, disons, de la non-connaissance, d'une forme fondamentale d'ignorance, d'incapacité, d'impossibilité à connaître, et sur le fait que systématiquement tout effort de connaissance doit être interrogé du point de vue de ses limites. Et donc on a en fait très très tôt, à l'origine, disons, des Lumières, une interrogation tout à fait particulière et qui, à mon avis, est tout à fait centrale, qui est restée quelque part fondamentale pour l'environnement. D'une certaine façon, l'environnement s'utilise à partir du moment où on ne sait pas. L'environnement sert à dire une ignorance, sert à dire une non-connaissance. Et de ce point de vue-là, la notion est évidemment extrêmement intéressante parce qu'elle sert aussi de relais, elle relaye justement le non-connu, et donc quelque part elle est fondamentalement heuristique, c'est-à-dire qu'elle est fondamentalement un appel à la connaissance, un appel à la recherche, un appel à l'élaboration, et aussi évidemment de ce point de vue elle a un sens fondamentalement critique qui est extrêmement important, qui est absolument central. Voilà, donc ça c'est. Et il est tout à fait dommage que, en associant les positivités, on va dire, économiques et sociales à cette non-connaissance environnementale, on a d'une certaine façon effacé cette perspective d'interrogation qui reste propre à l'environnement. Je crois que là, il y a quelque chose qui est vraiment tout à fait important. La pratique qu'on a cherché à avoir aujourd'hui dans ce colloque, d'une certaine façon, reflétait, a essayé de refléter ça, c'est-à-dire ce que Francis a évoqué aussi, justement l'écoute de la diversité, de l'hétérogénéité, des multiples spécificités, de la diversité des ancrages, de la diversité des interrogations, de la diversité des positionnements, de la richesse, de la diversité des subjectivités. Et là, ce sont des éléments qui sont des éléments fondamentaux du point de vue justement de l'environnement. Ce à quoi l'environnement permet d'accéder, c'est effectivement fondamentalement à la diversité.
Merci pour cette ouverture. Juste un point qu'il faudra rediscuter, c'est comment tu mets la biologie dans l'environnement. Parce que bon, c'est des débats épistémiques, épistémologiques, que moi je suis beaucoup sur les perturbateurs endocriniens, sur des choses très concrètes, mais il y a des enjeux épistémologiques majeurs. Avec le retour de l'épigénétique qui est en train de monter en ce moment, on le voit venir, c'est très intéressant de voir comment justement des biologistes défendent l'irréductionnisme à l'intérieur de la biologie, donc justement une complexité qui est précisément du côté de l'inconnu en permanence, c'est-à-dire plus on creuse et on génère des problèmes d'échelle de toute façon, etc. Avec justement cette même lutte finalement, je dirais le tout génétique étant au fond à la biologie ce que le développement durable est à l'environnement d'une certaine manière. Enfin, j'exagère un peu, mais...
Sauf qu'effectivement, comme tu le dis, l'épigénétique revient actuellement mettre en question fortement justement le tout génétique. Hein. C'est-à-dire que là, on est aussi sur...
Enfin, c'est pas fait encore. Hein,
Non, mais enfin, disons qu'on voit malgré tout l'interrogation, disons, s'amorcer d'une façon importante. Mais juste un autre... Comment dire? Non, on n'a pas besoin du micro. Simplement pour signaler que dans un colloque auquel moi j'ai participé il y a un an, Jean-Claude Amessène avait fait un exposé extrêmement intéressant sur justement ce qui peut s'appeler disons une épistémologie en quelque sorte de l'environnement du point de vue de la biologie, et en montrant en développant justement l'idée non seulement d'un environnement externe mais aussi de l'environnement interne, c'est-à-dire du fait que chaque cellule du corps elle est elle-même en relation avec un environnement et elle fonctionne par rapport à cet environnement. Donc ne pas simplement concevoir l'environnement d'un point de vue externe et disons formel ou spectaculaire ou visible, mais aussi concevoir l'environnement dans une réalité beaucoup plus complexe, beaucoup plus elle-même hétérogène d'une certaine façon.
Peut-être un dernier rebond avant l'arrêt de l'arbitre.
D'accord. Alors un rebond rapide. Qui a l'avantage de reprendre quelqu'un qui n'est pas sociologue.
Quelle chance.
Oui, personne n'est parfait. et donc, voilà, quand je vais faire cette manière-là, donc, quand la proposition a été faite de faire partie du comité scientifique, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est effectivement d'aborder cette question récurrente à laquelle j'étais confronté, de savoir comment se construit une lecture critique du développement durable, cette chose un peu insaisissable d'un point de vue à la fois scientifique et même épistémologique, malgré des travaux extrêmement nombreux. À partir d'un point de vue, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur plutôt l'action et la décision. Et alors, je vais être, du coup, comme les deux intervenants étaient d'abord évidemment plus optimistes, si j'ose dire, plus
sophistiqués. Pour une fois.
Beaucoup plus simple et peut-être moins optimistes. Moi, disons les articles de cet axe 4, on essaie de regarder aussi les autres articles, donc du coup, c'est un regard visé. Ce que je constate, c'est une double difficulté, effectivement, à construire. C'est-à-dire, je pensais trouver des débuts d'éléments de réponse. Je trouve, de manière plus précise, des éléments de constat, c'est-à-dire qui me semblent plus clairs, en tout cas du côté de la sociologie. Une difficulté à construire une posture scientifique vis-à-vis de cette chose-là. Bon, je continue à dire chose parce que je n'ai pas encore lu des choses convaincantes, enfin des écrits convaincants sur la manière d'appréhender. Pour être plus précis, des difficultés à construire des catégories analytiques, critiques au sens de catégories qui permettent, face aux différentes mobilisations du développement durable, que ce soit dans les périmètres sur lesquels je travaille, c'est-à-dire l'action urbaine ou dans d'autres domaines, des catégories critiques. Moi, ce que j'entends ou ce que je lis, ce sont des catégories forgées pour beaucoup depuis, pour un certain nombre d'entre elles, depuis les années 70, 80, etc., et qui sont remobilisées dans une tentative, parfois même de mise en scène du débat critique des années 70, qui s'est un peu étendu jusqu'aux années 80, mais pour faire franc, face à l'émergence imposante, saturante du développement durable. Donc, à partir de ma petite position qui analyse plutôt l'action et la décision, dans laquelle est fortement mobilisé le développement durable dans tous les sens, donc on a besoin d'un outillage, d'une lecture critique, ce que je constate, c'est effectivement une difficulté à construire cette posture scientifique et du coup à construire une position dans le débat. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce colloque, c'était à la fois une lecture critique de la sociologie dans un débat scientifique, mais ce qui m'intéressait, c'est comment, je dirais, ça impacte, maintenant on dit ce mot-là, ça diffuse, ça influence, ça permet de construire, comme ça a été le cas pendant votre période, des positions dans des débats publics et qui ont donné des éléments, je pense pas à chaque fois, aux années 70, à un certain nombre de contradicteurs, de grands de choix de société ou de politique publique, ou d'autres situations, je dirais, où on a pu, grâce à cette construction d'une position du débat, dans le débat, à partir d'une posture scientifique, construire les éléments, et c'est là où vous voulez en venir, d'un débat public. Parce que un débat scientifique, on commence à l'avoir, plus ou moins. En revanche, en tout cas, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, je ne vois pas de débat public sur le développement durable. C'est une donnée, en tout cas pour ceux qui sont dans l'action public en particulier, et la question au débat porte sur comment on fait, comment on applique. Or, on a besoin de catégories, et donc je venais avec mon couffin pour pouvoir prendre quelques catégories. Mon couffin n'est pas plein. Ce qui pose, et je finirai par là, la question, en dehors des catégories scientifiques, des catégories intermédiaires qui ont certes circulé entre le champ scientifique et le champ du débat public, à différents moments où il y avait des mobilisations et des formes de mobilisation pour éclaircir les choix qui étaient faits pour les sociétés contemporaines. Et je pense qu'il y a aussi, pour finir, des déficits autour de la construction de ces catégories intermédiaires, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, et qui peut-être au centre d'une piste, alors pour être un peu tout de même optimiste, c'est-à-dire partir de la question des catégories intermédiaires pour essayer de construire, donner juste une illustration, celle des inégalités. Alors, inégalités écologiques, inégalités vis-à-vis ou par rapport ou face au développement durable. Et quand on regarde la littérature, qui a été riche notamment à partir des travaux sur la justice environnementale aux États-Unis, en tout cas en France, telle qu'elle est mobilisée, je vais être caricatural, on fait une fête journée, c'est enregistré, mais ça sera jamais retranscrit. On pourrait quasiment, en voyant les travaux, reprendre les mêmes catégories, les mêmes termes intermédiaires pour les inégalités sociales. Je le confirme, même si je suis fatigué en fin de journée, parce que ça ne relouvrait pas fondamentalement la question des inégalités. C'est-à-dire que, grosso modo, on va se retrouver avec des nuances, certes, avec cette idée que ceux qui sont les plus pauvres sont ceux qui ont l'environnement le plus défavorable et qui sont dans des situations sociales ou de relégation sociale. C'est-à-dire qu'il y a Et ça ne renouvelle pas fondamentalement, du coup, ça illustre de mon point de vue le fait que ces catégories intermédiaires, parce que pour moi c'est une catégorie intermédiaire, ne permettent pas ensuite d'avoir cette lecture critique du développement durable. Voilà.
Je peux faire un commentaire en disant par rapport à ça. Moi, je dirais que, enfin, on peut se poser la question en tous les cas de savoir dans quelle mesure justement ça n'est pas la lecture française qui est faite justement des inégalités écologiques et environnementales, disons, qui effectivement a quelque part faussé ou perdu le sens de ce que ça pouvait avoir dans un univers culturel qui était un univers culturel différent, l'univers américain. Il est clair que aux États-Unis, l'environmental justice a très très fortement fonctionné et qu'elle a joué un rôle tout à fait important, mais elle n'a pas joué un rôle, disons, comment dire, formel ou conceptuel. Elle a été simplement un vecteur de prise en considération et de d'appropriation et d'intervention publique, disons, majeure de la part de tout un ensemble de communautés qui étaient exclues d'une certaine manière de l'environnement, de la problématique environnementale, je veux dire. Et donc, de ce point de vue-là, ça a profondément fonctionné. À partir du moment où on a, enfin l'itinéraire, disons, même de la notion d'inégalité environnementale en France est frappant. La notion d'inégalité environnementale a été introduite par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est pas la peine de. Il faut pas chercher loin, évidemment.
Alors que.
Pardon ? Non, mais on peut. Non, mais il n'y a quoi rigoler. Et disons que, alors qu'aux États-Unis, il s'est agi d'un mouvement qui était un mouvement grassroots, un mouvement vraiment de la société et d'une partie tout à fait vulnérabilisée et exclue en quelque sorte de la société, en France, on a un montage qui est un montage. Top-down, un montage conceptuel top-down. Le ministère a cherché à accréditer ou à rendre accessible, disons, à rendre crédible la notion d'inégalité, inégalité environnementale. Et voilà. Donc, les limites qu'on trouve ensuite à la notion d'inégalité environnementale, bon, elles sont évidentes, elles sont inscrites dans la trame, disons, conceptuelle à travers laquelle la chose a été élaborée en France. Et cette trame conceptuelle elle-même n'est pas neutre. Je veux dire, cette trame conceptuelle, elle est une trame qui organise et qui a fonction à organiser, disons, l'ensemble de ce qui est pensable, de ce qui est imaginable et de ce qui est soi-disant réalisable, disons, par l'ensemble de la société. La tradition française est construite là-dessus. Je ne veux pas développer indéfiniment. Je veux dire, de Rousseau aux inégalités écologiques, il n'y a pas de distance, je veux dire.
Je vais être très court, mais il me semble que cette notion de développement durable, elle opère un retournement, c'est-à-dire qu'elle inverse la charge, elle inverse la faute. On est passé d'une période où on avait des mouvements de contestation qui contestaient les institutions ou les grandes organisations ou les grosses entreprises qui détruisaient l'environnement, etc., etc., à une période actuelle où celui qui faute, c'est le citoyen, ou justement celui qui ne trie pas ses déchets, celui qui n'éteint pas ses lumières, etc., etc. Et donc finalement, on a une inversion d'une période où il y avait des activistes qui dénoncent une domination qui détruit finalement l'environnement, à une période où c'est l'individu dans ses actes victimes qui faute. Et c'est un retournement, puisque c'est l'institution qui devient, elle, garante justement du bon comportement, etc., etc. Donc il me semble que ce retournement ou cette inversion de la faute est importante. La deuxième particularité, c'est que finalement, quand on passe d'inégalité sociale à inégalité écologique, on passe d'une situation où l'État, où les institutions doivent être garantes du bien-être de la population, à une situation actuelle où le niveau planétaire n'est plus géré par aucune instance. Et donc, en dernière instance, il n'y a plus l'État, comme on a connu l'État-providence, en dernière instance, justement, il n'y a plus rien. On n'a plus d'interlocuteur, et donc la critique est d'autant plus difficile. Et c'est pour ça que, quand tu parles de comment s'entrechoquent les visions du futur, dans ce cadre-là, je ne sais pas si on est dans un cadre avec plusieurs visions. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a une vision qui s'impose à tous et qui est unique et qui rend les voies de la critique plus délicates, quoi, disons. Et d'où l'intérêt, justement, donc, de cette construction du répertoire des ressorts des critiques. Et donc, le colloque était essayé de montrer, donc ça c'est un hasard, disons, en tout cas de mon parcours, qui fait que je suis architecte, donc que je m'intéresse, même si je suis sociologue, à l'objet urbain. Donc, il me semble que l'objet urbain est un objet favorable, disons, pour voir dans quelle mesure cette doxa qui est très englobante est mise à l'épreuve concrètement. La deuxième chose, c'est que le travail donc initié par ce colloque, c'est aussi de travailler la dimension critique depuis, non pas les gouvernants, moins par les méthodes de gouvernement, que par, justement, les mobilisations potentielle des gouvernés, et donc d'où une posture du chercheur, disons, qui est certainement assez différente du chercheur académique qui vise à construire un domaine, quoi.